Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire une petite introduction au débat d'une vingtaine de minutes, et après on pourra débattre. Et excusez-moi, on a du temps devant nous. Est-ce que derrière vous entendez plus fort? Alors attention devant, ça va péter. Désolé, mais. Alors, il y a 2 ans, ça va là? Ok, on va se calmer devant alors. Il y a 2 ans, la Fédération de la Métallurgie CGT, que je nommerai pour faciliter la fédération, s'attaquait au syndicat CGT historique de l'usine PSA Stellantis de Poissy. C'est la plus grosse usine de production industrielle d'Île-de-France, forte de 3 500 travailleurs, CDI, intérimaires et sous-traitants. Je ne vais pas refaire dans le détail toute l'histoire de ces 2 ans de lutte contre les manœuvres de la fédération pour exclure juridiquement le syndicat de la CGT et tenter de mettre à genoux ses militants. Mais avant de retracer les principaux épisodes de cette lutte pour la démocratie syndicale et ouvrière, pour que vive un syndicat de combat, puis ensuite évoquer la situation actuelle, je pense que je n'apprendrai ici rien à personne en disant que même si les bureaucrates de Montreuil ont réussi à trouver une juge à Bobigny en décembre dernier pour exclure définitivement la CGT historique, ils se sont cassés les dents en ce qui concerne leur objectif, qui était de faire disparaître syndicalement, d'avoir la peau des militants. Nous sommes toujours là et bien là. Nous n'avions cessé de le dire durant les mois passés, la seule reconnaissance qui vaille aux yeux de militants combatifs, de militants fidèles aux intérêts des travailleurs, ce n'est pas la reconnaissance des juges ou celle du patron, mais bien celle des travailleurs du rang. Nous n'avions cessé de dire, encore ici même, l'année dernière, que le vrai tribunal, celui qui comptera, sera les élections professionnelles où les vrais juges seront, par leur vote, les travailleurs de l'usine. Le 19 avril dernier, le verdict est tombé, clair et sans appel. Cette élection, où la participation a été de plus de 91% chez les ouvriers, a été un succès pour les ex-militants de la CGT historique, passés depuis décembre dernier à Sud, qui ont réuni plus de 21% des voix. À l'opposé, cela a été un désaveu cinglant pour la fédération. Son syndicat, une CGT artificiellement créée par elle, n'a réuni que 10% chez les ouvriers, seulement 8% sur l'ensemble des collèges de l'usine, perdant ainsi sa représentativité légale. Une première depuis les années 1960, date à laquelle la CGT s'était construite à travers des combats très durs face aux différents patrons qui se sont succédés. Les travailleurs, par leur vote, ont sanctionné la politique de division et d'exclusion, les manœuvres, les mensonges, les calomnies des bureaucrates de Montreuil. Ces bureaucrates qui ont piétiné la démocratie syndicale, agi contre les syndiqués et les travailleurs de Poissy, agi contre l'avis des syndicats CGT du groupe PSA, sont responsables à 100% de ce gâchis. Le soir des élections, et le lendemain, à la distribution du tract des résultats électoraux, les travailleurs de Poissy ont tenu à exprimer leur joie à l'annonce du score de Sud qui se traduisait dans l'usine par les sourires, les embrassades et les klaxons des caristes ou celui des voitures à l'extérieur sur le parking et par les très très nombreux témoignages de félicitations. Un militant disait, je le cite, c'est comme dans un mariage, on n'arrête pas de te féliciter. Et encore aujourd'hui, un mois plus tard, certains ouvriers qui n'avaient pas eu l'occasion de le faire nous félicitent encore. Le fait que la CGT ne soit plus représentative a été ressenti comme une sanction et une punition légitime. Oui, 21% des travailleurs ont choisi de soutenir et de voter pour les militants Sud, exclus de la CGT, parce qu'au-delà de l'étiquette, ils votent avant tout pour des femmes et des hommes en qui ils ont confiance et qui ont prouvé par des années de militantisme qu'ils étaient fidèles aux intérêts des travailleurs et des militants combatifs. Il faut vraiment être un bureaucrate aveugle et n'avoir aucune confiance dans les travailleurs pour croire qu'il peut en être autrement. Avant de faire le bilan de cette lutte de 2 ans pour la démocratie ouvrière et pour que vive un syndicat de combat dans cette usine, je vais donc rapidement, très rapidement, refaire ces principaux épisodes pour remettre tout dans le contexte. Il y a 2 ans, un désaccord est né au sein du syndicat CGT historique de l'usine entre quelques délégués, chose parfaitement banale dans la vie d'un syndicat. La fédération s'est jetée sur cette occasion avec comme objectif de se débarrasser d'un syndicat pas assez obéissant et un peu trop combatif à son goût. Elle a demandé la réunion d'un congrès extraordinaire du syndicat pour y trancher les désaccords. Ce congrès a eu lieu en novembre 2021, réunissant 190 syndiqués. Mais comme les bureaucrates et les opposants étaient certains d'y être minoritaires, ils ont non seulement décidé de le boycotter, mais ont organisé un deuxième congrès dans leur coin, entre eux, pour y créer artificiellement, contre les propres statuts de la CGT, une deuxième CGT dans l'usine. Une pétition contre la division syndicale et contre la création de cette deuxième CGT fantôme a réuni en quelques jours plus de 1000 signatures d'ouvriers dans l'usine, sans aucun effet sur la fédération ni chez Philippe Martinez. En février 2022, la fédération a décidé arbitrairement que la vraie et la seule CGT était celle qu'elle avait elle-même fabriquée. Elle a ensuite, avec le soutien actif de la direction de l'usine, dépouillé tous les mandats désignatifs des militants de la CGT historique pour les transférer à ceux de la CGT fédérale, la CGT fantôme. La direction de l'usine a alors pris le relais en décrétant que la CGT historique n'était plus représentative et, dans une nuit, au beau milieu de la nuit, a changé la serrure du local syndical, remettant les nouvelles clés à la CGT avec laquelle elle allait s'entendre beaucoup mieux. Les militants de la CGT historique se sont alors retrouvés, pour la majorité, sans aucun mandat, sans moyens légaux ni même de local syndical. SDF. L'étape suivante a été une attaque en règle par la fédération contre tous les syndicats CGT du groupe PSA. Elle m'a démandaté de mon mandat de délégué syndical central en piétinant, là aussi, le vote des militants CGT du groupe qui avaient voté à 88% pour que je reste leur DSC, en faisant donc cette fédération, en faisant un bras d'honneur aux 220 militants qui s'étaient réunis le 13 mai 2022 au siège de la CGT à Montreuil pour rendre public ce vote. Ça a été pour tous ces militants une leçon en direct de ce qu'est la bureaucratie syndicale et c'est une leçon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Pour les militants de la CGT historique de Poissy, l'épisode suivant a été de recevoir à leur domicile, fin juillet, à la veille de partir en congé annuel, la visite d'huissier de justice envoyé par la fédération pour être assigné au tribunal judiciaire de Bobigny. Quand les bureaucrates le veulent, ils savent se comporter comme n'importe quel patron. L'objectif de la fédération était d'obtenir, par une décision de justice, de nous interdire de nous réclamer de la CGT, ce que nous faisions toujours, et de nous en exclure définitivement avec interdiction de porter le badge CGT ou de distribuer un tract CGT avec une amende de 1 000 euros par infraction constatée. Là encore, la justice a volé au secours de la fédération et nous avons été définitivement exclus de la CGT le 9 décembre 2022. Le syndicat s'était préparé, bien évidemment, à cette éventualité en convoquant un congrès pour passer contraint et forcé à Sud, ce que nous avons fait 2 jours plus tard, le 11 décembre. 200 syndiqués nous ont suivis à Sud, ce qui pour cette usine est un chiffre non négligeable. Dos au mur, passer à Sud était la seule possibilité pour faire vivre notre syndicat et d'avoir la possibilité de se soumettre au verdict des travailleurs aux élections d'avril. La campagne électorale a démarré aussi sec. En réalité, elle avait démarré il y a déjà plusieurs mois auparavant. L'objectif de la direction de l'usine était clair. En finir avec cette équipe militante, nous écraser et nous faire disparaître syndicalement. alors que tous les militants des autres syndicats, CGT y compris, avaient des moyens illimités pour mener campagne, les militants sud n'étaient pas logés à la même enseigne. L'écrasante majorité, je l'ai dit, des militants n'avait toujours pas de mandat. Le syndicat n'avait toujours pas de local syndical. Et les militants étaient marqués à la culotte, comme on dit. Ceux qui restaient dans l'usine, en dehors de leurs horaires de travail pour y militer, ont été convoqués pour des sanctions. Il a fallu jouer aussi au chat à la souris avec la direction durant des mois. Pour se réunir toutes les semaines, nous prenions des salles de réunion inoccupées, au hasard. La direction a alors fait cadenasser toutes les salles de réunion dans l'usine. Manque de chance pour elle, nous connaissons mieux son usine qu'elle et nous avons réussi à nous réunir dans un endroit sans qu'aujourd'hui elle ait encore pu trouver lequel. Tout ce que je peux vous dire, parce que je ne peux pas tout vous dire, on n'a toujours pas de local encore, bientôt, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un endroit avec tout le confort nécessaire pour se réunir, et les camarades qui sont de l'usine, ils le savent, c'est peu de le dire. Mais d'une manière générale, n'ayant presque plus de militants avec des mandats leur permettant de se libérer du poste de travail pour faire campagne, le syndicat a dû adapter son fonctionnement en s'appuyant et en faisant militer davantage les syndiqués, mais aussi et surtout plus largement les travailleurs. Cette situation a été en fait un mal pour un bien, car cela a marché au-delà de ce que nous pouvions espérer. Bien sûr que le succès électoral a été le fruit du travail du noyau dur du syndicat, des militants qui, malgré tous les obstacles, malgré les périodes de démoralisation, a su par sa détermination et sa solidarité s'accrocher et tenir bon. Il y avait évidemment de la conviction parmi les militants, mais aussi de la rage. Face à la direction et aux bureaucrates de Montreuil, la volonté d'en découdre et de leur donner une bonne leçon. Mais ce succès a été le résultat de la mobilisation des travailleurs du rang, d'ouvriers de chaîne, de moniteurs, nombreux, qui tenaient absolument qu'il existe dans cette usine, face à ce patron de combat, un syndicat de combat, une force d'opposition, comme le disait un ouvrier, qui soit réellement, sincèrement de leur côté. Un syndicat composé de femmes et d'hommes en qui les travailleurs avaient confiance, qu'ils avaient pu juger de leur intégrité et de leur fidélité depuis des années. C'est ça qui a fait la différence. La mobilisation de tous ces travailleurs et la capacité des militants à les solliciter et à les faire militer. Alors même si les bureaucrates de la fédération, ont réussi à nous exclure de la CGT historique et qu'avec la direction, ils ont pensé avoir notre peau, eh bien, ils en ont été pour leurs frais. Le syndicat qu'ils ont voulu détruire continue d'exister, certes sous une autre étiquette, mais de la même manière, avec les mêmes pratiques démocratiques et le même soutien des travailleurs. Et ça, c'est l'essentiel. Concernant la CGT au niveau du groupe PSA, l'écrasante majorité des syndicats ont applaudi aux résultats, c'est-à-dire non seulement au succès de Sud, mais aussi celui à la défaite de la CGT de Poissy. La fédération n'a pas réussi à casser les liens humains et militants qui ont été créés depuis des années entre tous les militants du groupe. Mais comment en aurait-il pu en être autrement quand plus de 220 militants CGT se sont vus mettre leur vote à la poubelle par des bureaucrates? Ces liens entre militants de base qui sont dans la tranchée depuis des années, comme on dit, valent de l'or pour les futurs combats que les travailleurs de Stellantis livreront face aux actionnaires. Et avec cette expérience d'avoir subi les attaques de la fédération, ils sauront, ou en tout cas, il ne faudra pas qu'ils oublient que dans les moments cruciaux des futurs combats, la fédération sera au final du côté de la direction. Alors si nous, les militants de lutte ouvrière, nous avons pris toute notre part dans le combat de la CGT historique de Poissy pour la démocratie, c'est parce que, en tant que militants communistes révolutionnaires, nous nous battons pour que les travailleurs apprennent à se diriger eux-mêmes. C'est la base de nos idées politiques. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, écrivait Marx pour la première internationale des ouvriers. Cette idée, nous la défendons partout, sur tous les terrains et avec tous les outils que nous offre une situation donnée. Ainsi, dans les élections politiques, nous défendons l'idée qu'il n'y a pas de sauveur suprême et que plutôt que d'attendre que l'élection d'un politicien quelconque résolve leurs problèmes, les travailleurs doivent entreprendre de les résoudre eux-mêmes. Dans un atelier, nous militons pour que les travailleurs confrontés à une difficulté ne se contentent pas de se tourner vers un délégué pour qu'il la règle à leur place, mais se réunissent et s'organisent pour le régler collectivement. Dans une grève, nous combattons l'idée d'une direction automatiquement assumée par les dirigeants des syndicats et mettons en avant les comités de grève, c'est-à-dire une direction élue, responsable et révocable par les grévistes, sous leur contrôle, composée aussi bien de syndiqués que de non-syndiqués. Et demain, lorsqu'arriveront des bouleversements révolutionnaires, nous militerons pour que ceux-ci soient dirigés par des soviets, des conseils ouvriers, c'est-à-dire par les travailleurs eux-mêmes. La démocratie ouvrière, c'est la domination politique du prolétariat, écrivait Léon Trotsky. C'est très précisément pour cette raison que les bureaucrates syndicaux la combattent et c'est précisément pour cette raison que nous, à Lutte ouvrière, nous la défendons. C'est une lutte profondément politique au sens où elle participe du combat plus général pour l'émancipation des travailleurs. Les bureaucrates syndicaux, qu'ils soient de la CGT ou d'ailleurs, y compris à Sud, à l'exact opposé de cette vision de syndicat dirigé par la base, se disputent le rôle de chef du prolétariat, ce qui les amène à réduire la lutte syndicale à une bataille d'appareils, de boutiques, en concurrence pour des places, des prébendes et un peu d'influence auprès de la bourgeoisie et de ses gouvernements. Notre courant politique a toujours milité contre cet émiettement du mouvement syndical, qui ne sert que la bourgeoisie et a été du reste en partie organisé par elle. La classe ouvrière, et ça on pourra en discuter les camarades, la classe ouvrière est évidemment bien mieux armée, elle serait évidemment bien mieux armée si elle disposait d'un syndicat unique, d'une seule organisation syndicale présentant un front uni face à nos patrons et à ses gouvernements. Cette position est évidemment indissociable de la question de la démocratie. Un syndicat unique, sans démocratie totale en son sein, peut même se transformer en un outil de dictature contre la classe ouvrière. L'URSS stalinienne l'a parfaitement montré en son temps. Pour être une arme utile pour les travailleurs, un syndicat unique doit au contraire permettre à toutes les idées, toutes les tendances de s'exprimer librement et de débattre, y compris en permettant de s'organiser en fractions, afin que les travailleurs, quelles que soient leurs idées et leur niveau de conscience, puissent décider eux-mêmes par la confrontation des idées d'une politique. Ce serait une école de la démocratie ouvrière où les travailleurs apprendraient l'unité malgré la diversité des opinions et des engagements politiques. C'est d'ailleurs de cette manière que doit fonctionner un comité de grève et que fonctionneront demain les conseils ouvriers. Dans ce sens, travailler à faire vivre la démocratie ouvrière, ou plutôt à la ressusciter, c'est préparer l'avenir. Apprendre aux travailleurs à contrôler et à diriger eux-mêmes leurs organisations de base, c'est le premier pas d'un apprentissage qui les conduira à l'avenir, à contrôler et diriger eux-mêmes l'ensemble de la société. C'est en cela que la restauration de la démocratie ouvrière est un élément fondamental de notre lutte politique. C'est la condition qui garantit l'unité des travailleurs dans leur combat contre la bourgeoisie. Au lendemain des élections de PSA Poissy, à l'opposé d'un esprit de boutique syndicale mortifère, le syndicat Sud a rédigé une lettre ouverte adressée aux camarades de la CGT pour leur tendre la main, en leur proposant une politique unitaire, je cite le tract, pour mener ensemble les combats contre le patronat et le gouvernement dans l'unité et la démocratie. L'esprit de cette lettre ouverte est sincère, sans arrière-pensée d'aucune sorte, car il est vital que tous les militants, tous les syndicats qui partagent l'esprit de la CGT de 1906, celle qui se donnait comme perspective l'abolition du salariat et le renversement de la société capitaliste, agissent ensemble par-delà les étiquettes syndicales. Alors avant de conclure, je voudrais quand même rappeler que cette offensive de la Fédération contre la CGT historique de PSA Poissy et qui se poursuit encore actuellement au niveau de la CGT du groupe PSA n'a pas pour origine la présence de militants de lutte ouvrière à Poissy. Son explication, c'est d'abord et avant tout la volonté de la Fédération de se débarrasser d'un syndicat combatif qui n'a pas comme philosophie de négocier avec le patron et de signer les accords, mais au contraire, de reposer sa politique sur les mobilisations collectives des travailleurs. C'est également le fait qu'elle a refusé, cette fédération, de tolérer un syndicat qui fonctionne démocratiquement, c'est-à-dire un syndicat dirigé par la base, où ce sont les syndiqués et les délégués qui prennent les décisions, même si ces décisions ne correspondent pas aux orientations de la fédération. Quand elle a fait son grand ménage dans la CGT historique de Poissy, la fédération n'a pas fait de différence entre les militants qui étaient à lutte ouvrière et ceux qui n'y étaient pas. La frontière passait entre ceux qui acceptaient de se soumettre à ses ordres et ceux qui ne l'acceptaient pas. Et il en va de même dans bien d'autres syndicats avec bien d'autres militants CGT où les fédérations ou les UD font la chasse aux militants combatifs, qu'ils soient encartés ou pas, dans un parti politique, qu'ils soient de LO, de la France Insoumise ou du PCF. Alors pour conclure, je voudrais insister sur l'idée fondamentale qui nous tient énormément à cœur pour nous, qu'être un militant syndical ne suffit pas pour mener le combat contre le patronat. Le syndicalisme a ses limites dans le combat de la classe ouvrière pour son émancipation. Si les militants ouvriers, syndicaux les plus sincères, les plus honnêtes, se limitent à l'activité syndicale, même menée le plus démocratiquement possible, il leur manquera toujours la conscience que pour se défendre véritablement contre les attaques patronales, il faudra en finir avec le système capitaliste, qu'il faudra ôter ce pouvoir de nuisance, de destruction qu'a la grande bourgeoisie sur l'ensemble de la société. Il leur faut la conscience politique. Pour avoir une chance de réussir à gagner contre le patronat, les travailleurs et les militants de la classe ouvrière ne doivent pas seulement être de bons militants syndicaux. Ils doivent faire de la politique, qui correspond aux intérêts de la classe ouvrière. Rosa Luxembourg, une révolutionnaire allemande qui s'opposait déjà dans les années 1900 aux dirigeants syndicaux qui réclamaient l'indépendance des syndicats, expliquait que le syndicalisme et la lutte politique étaient les deux faces d'une même lutte de classe. Sans la conscience qu'il faut que les travailleurs s'emparent du pouvoir politique pour changer la société, les luttes syndicales ne pourront jamais gagner définitivement. Si l'on n'a pas conscience que tant que les travailleurs ne se poseront pas concrètement et sérieusement la question de conquérir le pouvoir politique, on aura de cesse de vivre éternellement les luttes syndicales, qu'elles soient victorieuses ou pas. Oui, les travailleurs ont besoin de syndicats de combat, démocratiques, mais ils ont surtout besoin d'un parti politique, un parti communiste de travailleurs qui se fixe comme objectif le renversement de la société capitaliste.